Amen. Mathieu?
Bonjour à tout le monde. Comment vous y êtes? Comment vous y êtes? Ah, ou bien pas parler de pagaille créole? Non, ben ce matin, on n'a pas la prétention de le faire en créole non plus. Ce matin, dans le fond, ça va être un bref survol de ce que Dieu a fait dans nos vies en Haïti, où qu'on a pu le servir pendant 2 semaines. On a environ juste 1 heure pour vous montrer quelques courts témoignages, des vidéos, des photos. C'est sûr que c'est un condensé quand même qui va seulement montrer un bref survol. Parce que je veux dire, moi, à mon groupe vie, j'ai pris à peu près 1 heure et demie, puis j'ai condensé au bout et au bout. Fait que 14 personnes avec juste 1 heure, ça risque d'être rapide, mais on va vraiment essayer de vous témoigner le mieux possible ce que Dieu peut faire dans nos vies, ce qu'il a pu nous montrer, ce qu'il a pu permettre qu'on puisse faire aussi au travail des autres. Donc, j'inviterai tout de suite Hélène qui va nous donner son témoignage. La façon dont on va procéder, c'est tout simplement, on va donner un témoignage, puis il va y avoir des photos qui vont suivre, qui vont être cohérentes au témoignage qui va venir d'être donné. Donc, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Donc, je vais laisser la parole à Hélène.
Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, c'est lui, justement, qui a organisé tout l'avant-midi. Alors, on va voir, mais je ne suis pas inquiète. Bien, moi, j'ai eu le privilège, c'est la 2e année que j'ai le privilège d'accompagner un groupe. Et puis, je vais vous dire qu'un d'un désir que j'avais autrefois, là, quelques années, c'était d'être accompagnatrice de voyage. Et puis, bon, à ce moment-là, j'avais peur de l'avion, alors il n'y en était pas question. Mais depuis ce temps-là, non, j'ai plus peur. Et puis, le Seigneur s'est servi de moi pour accompagner 2 beaux groupes. Alors, cette année, le groupe était différent de l'an passé. L'an passé, c'était un projet d'école du dimanche. Il y avait 19 personnes, dont 12 jeunes de 13 ans à 18 ans. Cette année, ça a été composé surtout de jeunes adultes. Il y avait 4 jeunes entre 14 et 17 ans, à part Monica puis moi, un petit peu plus âgée. Alors, la Bible parle, nous accepte à partir de 13 ans. Et puis, ils le font parce que les jeunes sont bien encadrés. Alors, si vous avez des jeunes, n'hésitez pas à les inscrire parce qu'ils vont avoir un encadrement serré. Et puis, il n'y a pas de crainte à y avoir là-bas, c'est paisible. Vous pouvez aussi vous inscrire vous-même. Là, je m'adresse aux personnes de 30 ans et plus. Et vous pouvez laissez vos jeunes à la maison, si c'est ça que vous voulez aussi. Et puis, il y a différents départs. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec le groupe de Trois-Rivières. Vous pouvez vous organiser en couple, entre amis. Vous pouvez inviter des personnes qui ne font pas partie d'aucune église aussi. Ce n'est pas obligatoire que ce soit tous des croyants là, qui vont faire partie du voyage. Et puis, cette année, le montant au complet est déductible d'impôts. Alors, c'est quand même un très bel avantage. Pendant notre séjour là-bas, les responsables de la mission m'ont souvent répété, pas juste à moi, à d'autres aussi, en disant « vos jeunes sont beaux, vos jeunes sont beaux ». Puis oui, c'est vrai qu'ils étaient beaux, à bien y penser, là, mais beaux dans le sens qu'il y avait une bonne attitude. Ils sont allés pour servir et puis ils se sont donnés à 110 %. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait et puis en plus, ils l'ont fait avec joie. Il n'y a pas personne qui rouspétait, qui bougonnait. Ça s'est fait vraiment dans l'unité, dans la joie. Puis, alors, dans ce sens-là, on peut en être très fier. Moi, ce qui m'a touchée, une des choses qui m'a touchée, là, c'est qu'en arrivant, les chrétiens de Tiverny débutent l'année en se levant à 4 heures du matin et puis en chantant des cantiques. Et puis, on était couché tout le monde, on n'a pas participé personne, on était un petit peu brûlés là, du voyage. Mais c'était des chants angéliques. Je vous dis, à un moment donné, là, je pensais, j'ai dit, ça y est, je suis au ciel. Et puis là, j'ai dit, ben si je suis au ciel, comment ça se fait que je ne chante pas? Et puis, mais enfin, c'était pour vous dire comment c'était doux à nos oreilles là, d'entendre ces chants-là. Et puis quand je suis arrivée dans la salle communautaire vers 6h15, ces gens-là étaient à genoux sur le ciment en train de prier. Ça m'a touchée. Puis je me suis dit, on pourrait peut-être importer cette idée-là ici et puis l'adapter là, à notre genre de vie. Mais bon, alors c'est, ça va être à suivre. Et puis en revenant aussi du voyage, à l'aéroport, j'ai rencontré un de nos anciens pasteurs, John Malone, et puis qui travaille comme aumônier à Pierre-Éliott Trudeau. Et puis, il saluait ceux qui l'ont connu. Alors, je transmets les salutations, puis je laisse la parole à Mathieu.
Bon, bonjour. 10 jours avant le départ, j'ai eu de gros questionnements. Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me voyais pas du tout comme une missionnaire envoyée par Dieu ou pour Dieu, ni une travailleuse humanitaire efficace, ni même accompagnatrice de voyage. Mais Dieu avait ses plans et il m'a montré encore une autre façon de le servir. Un après-midi, dans la deuxième semaine de Tiverny, je me suis mise avec mes deux flûtes en plastique dans la grande salle en espérant d'attirer les petites filles pour s'amuser ensemble. Ça n'a pas pris de temps et des grands gaillards entre 15 et 30 ans sont arrivés, se disputant presque pour apprendre à jouer Frère Jacques. C'est véridique. Depuis ce jour, deux entre eux, Venel et Amos, n'ont pas arrêté de vouloir apprendre d'autres chansons et ils étaient doués. En 3 jours, ils ont appris de comment tenir une flûte sans essouffler dedans, jusqu'à une étude de flûte de 3e année, en passant par des cantiques de l'Église. Ils l'ont appris à l'oreille. Je n'aurais jamais cru qu'une simple flûte à bec ferait tant de bonheur. Et c'était en réalité plus qu'une flûte. C'était un succès pour eux. Un succès au milieu d'échecs et de chaos qui les entouraient. Ils étaient tellement édifiants et pleins de joie et d'espoir au fond de la misère. Ils m'ont raconté leur vie d'église et leur vie de prière aussi. Amos est un des fils de Julienne, notre cuisinière. Il est agronome et essaye de rebâtir le pays après chaque tempête tropicale, mais il leur manque des moyens. Il m'a expliqué la faune et la flore de leur beau pays avec des noms en latin, français et créole. J'étais privilégiée. Venel est orphelin et accueilli depuis tout jeune chez sa tante Julienne. Il a 19 ans, il est très intelligent, mais il est seulement au niveau 3e secondaire, car il ne peut pas payer chaque année les frais de scolarité. C'est le cas de beaucoup d'enfants et jeunes à Tiverny. Amos et Venel, et d'autres, ont une soif d'apprendre et une joie pour les petites choses, que c'était une bénédiction de les avoir connus. Je leur ai laissé mes deux flûtes, et ils l'ont pris avec enthousiasme l'engagement d'enseigner de la flûte aux autres du village en attendant l'année prochaine. Leur mère est tante Julienne et une autre dame âgée qui tout le monde appelle grand-mère sont des femmes d'exception de prière. Elles prient tout le soir de 10h à minuit pour nous, les Canadiens, et toute la nuit quand nous sommes en voyage. Et tous les matins à 4 heures, Julienne était fidèle au poste à la cuisine pour nous. Dieu m'a fait découvrir d'autres frères et sœurs qui sont terriblement dans le besoin, mais qui ont un cœur entier pour Dieu et un cœur de service avec un amour respectueux pour les autres, malgré tout. Un modèle de vie chrétien pour moi.
un matin, je vais vous parler de l'île à la vache. Puis que comment Dieu m'a appelé à l'île à la vache. Bon, premièrement, c'est ma deuxième année en Haïti. Puis... je me sens privilégié que Dieu m'a envoyé une deuxième année de suite en Haïti, puis je pense que c'est une vraiment belle expérience, puis je la souhaite à tout le monde ici. Bon, je vais commencer par... C'était au début de la première semaine, la deuxième, voyons. Puis je pensais... je marchais proche de la plage, puis je pensais... Je pensais que c'est bien beau qu'est-ce que je fais de la construction, mais je pense que je pourrais faire plus. Puis le samedi, on était supposé aller à Port-Salut. C'est une plage, une belle plage qui est à 45 minutes d'autobus de Tiverny. Puis je pensais à ça. Puis un soir, j'étais assis avec Mathieu, puis... On parlait justement de où Dieu nous voulait, puis qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui. Puis on a prié, puis je suis allé voir Denis Jacques. C'est lui qui s'occupait du transport pour aller à l'île à vache. Puis c'est lui, dans le fond, qui préparait ce projet-là. Puis je suis allé le voir, puis il m'a dit, voilà 30 minutes, je t'aurais dit non, parce qu'il y avait quelqu'un que, là, 30 minutes, il avait décidé de ne plus y aller, fait que j'ai pu y aller. Bon. Le matin, j'étais vraiment stressé avant de partir. J'avais peur un peu, puis j'étais stressé. On apportait beaucoup de matériel pour la sœur Flora, c'est la sœur qui s'occupe de l'orphelinat où on allait aller la vache. Puis c'était vraiment hot parce que quand on est arrivé, tout le stock qu'on a apporté, on en avait vraiment besoin, puis ça pressait. Comme, on a apporté 100 livres de pâte à dents, puis il en restait plus, fait que c'était vraiment... bénédiction. Bon. Quand je suis arrivé à l'île à vache, la première fois que j'ai vu, c'est en entrant dans l'orphelinat, c'est des tas d'enfants empilés sur un matelas, puis qui avaient des maladies mentales ou physiques. Il y avait aussi des orphelins, puis je ne savais pas trop comment me sentir. Après, je commençais à m'habituer un peu. J'étais allé me coucher avec eux, puis juste passer du temps avec eux. Ils remarquent pas trop qu'est-ce que tu fais. Ils savent pas pourquoi tu es là, mais ils aiment juste ça, de recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre. Après être arrivé, après peut-être 30-45 minutes, on les a fait manger. C'est ça, on les a fait manger. Après, on est allé... on a amené les orphelins à la montagne parce qu'il y avait beaucoup d'handicapés qui étaient en chaise roulante puis on ne pouvait pas les apporter. Puis on les a apportés à la montagne puis c'était vraiment beau. Puis j'ai pu... j'ai parlé avec un petit gars, puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le nom de ton père? Puis là, il m'a dit, je le connais pas. J'ai demandé, c'est quoi le nom de ta mère? Puis il m'a dit, je la connais pas. Fait que là, j'ai réalisé que c'est pas tout le monde dans sa terre qui sont heureux, puis qui ont leurs parents, puis qui peuvent sourire chaque jour. En revenant, on a donné des biscuits aux enfants. Puis, il y en avait un, il était en chaise roulante, puis il y avait un biscuit dans les mains, puis j'arrivais avec mon paquet, puis il me regardait avec des yeux, ses yeux sont illuminés, puis grand ouvert, puis pitch un biscuit à terre, puis il tend les mains. C'est juste pour faire remarquer que pour eux, une petite chose, c'est un paquet de biscuits, ça vaut beaucoup. Puis, c'est ça.
Bien, bonjour. Je commencerai par dire que si vous avez de la misère à avoir du temps personnel avec Dieu, je pense qu'une des premières places qu'on doit aller chercher, c'est les distractions. Vraiment, là-bas, quand on arrive, il n'y a rien. On ne peut pas regarder la télé ou aller au cinéma ou des choses comme ça. Il n'y a vraiment rien. Fait que ce que j'ai apprécié de mon voyage, c'est justement de vu que toutes les distractions qu'on a, qui font partie de notre quotidien, dans le fond, puis qu'on ne voit pas comme un obstacle entre nous et le Seigneur, bien là-bas, on s'en rend compte. On voit vraiment que, ouais, mais là, quand je suis en ville, j'ai jamais le temps là, jamais le temps là, jamais le temps là. Mais on s'aperçoit que il y a beaucoup de choses que, dans le fond, c'est nous autres qui, ben, tu sais, le programme qu'on veut pas manquer, telle affaire, tel événement. Fait que, j'ai beaucoup aimé ça parce que je pouvais prendre du temps pour moi. Puis c'était pas non plus comme un camp de vacances où il y a un tâche-appel le matin, le midi, le soir. C'est du temps que tu passes avec le Seigneur puis que tu veux que le Seigneur te montre. Puis moi, je veux vous conter un peu ce qui a changé ma vie là-bas. Le plus bizarre, c'est que, en tout cas, je vais vous le dire après. Sébastien, quand il était allé la vache, nous autres, on était à Port-Salut. Puis avant ça, on était à l'orphelinat, tout. Puis la veille, le pasteur nous disait, priez. Priez pour que le Seigneur il vous montre quelque chose. Priez pour qu'il vous parle. Demain, c'est une journée, on s'en va voir les malades, les tuberculeux, ceux qui vont mourir du sida, tout. Puis après ça, il va y avoir des baptêmes. Puis, fait que, tiens, priez, puis que Dieu vous montre de quoi là-dedans. Puis tout. Fait que moi, je m'empresse le soir de prier. Seigneur, là, demain, il faut que ça fasse boum. La grosse affaire, là, il faut que je sois shaké. Puis, le matin, en me levant, après le déjeuner, même affaire, je m'en vais, je me retire. Puis, là, le Seigneur, sa journée, là, il faut que. Wow! Fait que, finalement, on s'enligne, on s'en va à l'orphelinat. Puis, comme je disais, moi, c'est comme en moi, j'aime les enfants, j'ai compassion pour les malades, tout ça. Fait que, j'étais comme dans mon élément, contrairement à d'autres où peut-être qu'il y avait plus de misère. Fait que, j'ai passé du super bon temps là-bas. Après, on était à l'église de Simon. Puis là, tu rentres, là, tu vois à peu près de la place pour 2000, 3000 personnes. C'est vraiment gigantesque. Je dis, ouais, ça va être. Finalement, ça commence, puis il y avait à peu près une quarantaine d'Haïtiens. Fait que, il y avait beaucoup de places libres. Mais on a eu du bon temps pareil, puis ça s'est rajouté. Mais là, on est parti de là-bas. Puis là, j'étais dans l'autobus, puis j'avais de l'amertume. Parce que la journée venait de se terminer, puis j'avais pas eu mon wow. Fait que, là, ça a fait. Ouais, j'étais vraiment mindé, puis tout, puis là, Seigneur, tu m'as rien montré, c'est plate. Fait que là, j'étais assis sur mon bord de la fenêtre, puis je regardais le chemin tout le long, puis j'entendais les autres avoir du fun dans l'autobus, puis j'avais vraiment pas le goût d'avoir du fun. Puis, rendu une fois où est-ce qu'on loge, tout. Là, je regardais les petits mounes qui revenaient, puis bonbon, Philippe, bonbon, puis donnait des bonbons à tout le monde, puis ça m'a comme redonné un regain de joie. Je dis, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, t'es venu ici pour servir, puis tout, puis, écoute bien. Fait que je me suis remis dans la prière, puis là, j'ai dit au Seigneur, je m'excuse de mon attitude, je m'excuse, tu sais. J'ai sûrement appris quelque chose, je ne l'ai même pas vu parce que j'étais trop buggé de voir le wow, je ne sais pas trop quoi. Mais j'ai dit merci quand même de ma journée, Seigneur. Puis C'était bon pareil, tu sais. Mais vous allez comprendre. Fait que, après ça, il arrive le soir, puis M. Yann vient me chercher, puis hey, viens, attends, on s'en va sur le toit, tout. Mathieu, il est là, puis ah, OK, je suis, tout. On s'en va. On était assis, bien, couchés, puis on regardait les étoiles. C'était tellement beau, puis on s'est mis à parler. Puis là, vraiment, il y a eu un miracle. On s'est mis à parler, moi et Mathieu, puis on s'est partagé des choses de vraiment concrètes dans nos vies, puis des combats, puis plein de choses comme ça, puis vraiment, le témoignage de mon frère m'a frappé comme un train, m'a montré là, que dans ma vie, que des choses que je laissais passer ou des convictions pas assez nues, puis tout le kit. Puis ça a vraiment été, dans mon cœur, là, on était les deux qui braillaient sur le toit. Puis, tu sais, puis quand j'étais me coucher ce soir-là, j'ai dit « Wow, tu m'as donné mon wow pareil, Seigneur. » Tu sais, c'est un wow qui aurait pu se produire de réticite. On vient à la même église, puis bon, on ne se courtoyait pas avant, on s'est connus à cause du voyage, puis c'est pour montrer que le Seigneur, il ne veut pas vous montrer la voie selon vous voulez. Tu sais, faites confiance au Seigneur. Puis moi, tu sais, quand j'ai demandé au Seigneur de me faire mon wow, regarde, il a dit, Philippe, elle n'est pas finie la journée. Tu sais, moi, je me pensais là, que c'était pour être dans la journée puis tout. Mais vraiment d'être à l'écoute du Seigneur, c'est ce que j'ai appris dans mon voyage. J'ai mande-y, là, puis laisse faire. Arrête ton scénario, arrête ton « comment ça va se passer dans ta tête ». Garde, mande-lui, laisse faire, il va diriger.
Bonjour. J'espère que vous êtes patient parce que j'ai fait un texte de 6 minutes, puis à matin, on me disait qu'il fallait que ça dure 2 minutes. Ouch! C'est pas mon genre. Moi, cette année, j'ai été vraiment bénie parce que Dieu m'a montré deux choses importantes, soit le pardon et le temps. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Le pardon, pourquoi? Parce que j'ai été adoptée. Ça fait maintenant 19 ans de ça. Ça fait 19 ans que je n'ai pas vu mon père biologique. Ça fait 19 ans que j'ai beaucoup de rancœur, de frustration, que je ne voulais pas pardonner à mon père. Donc, quand j'ai vu l'année passée Simon présenter le voyage justement sur Haïti, qui encourageait les autres à venir pour cette année, dans le fond, j'ai été beaucoup touchée. Puis je me disais, ah, pourquoi pas retourner dans mon pays d'origine, parce que j'ai jamais voulu y remettre les pieds, dans le fond. Et je pense que le travail que Dieu a commencé à faire dans ma vie a débuté à partir de ce moment-là. Et je me suis inscrite pour aller en Haïti avec un groupe magnifique, d'ailleurs. Et Dieu a travaillé dans ma vie, m'a montré que, bon, ce serait le temps, Eva, que tu pardonnes peut-être à ton père de qu'est-ce qu'il a fait. Oui, il t'a mis en adoption, mais regarde la vie que tu as aujourd'hui. Comparativement à ce que j'ai vu en Haïti, j'ai été vraiment désolée de voir ce que j'ai vu. J'ai même appelé ma soeur, puis je lui disais, je ne reconnais pas ce pays que j'ai quitté à l'âge de 9 ans. Donc, ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup changé. Il m'a même permis, le Seigneur, de rencontrer mon vrai père en Haïti, ce qui fut des belles retrouvailles. Malheureusement, Claire Lamarche était pas là. Donc, on n'a pas pu filmer ça, mais pas du tout. Mais j'ai rencontré mon vrai père et mes demi-frères et ma demi-sœur. Vraiment, c'était Dieu a vraiment travaillé, c'était formidable. Puis malgré toutes les explications qu'il avait pu apporter du pourquoi j'étais adoptée, ça ne me dérangeait plus parce que le Seigneur avait mis une paix dans mon cœur, une sérénité. Puis je faisais juste écouter, j'ai apprécié du fait qu'il m'avait mis en adoption parce que j'ai une meilleure vie aujourd'hui. Bon, moi, ce qui m'a touchée du voyage, nous autres, c'est à l'orphelinat. C'était très difficile pour moi de me rendre là parce que je venais juste de traverser un moment difficile dans ma vie parce que ma mère est décédée, ça fait à peu près 6 mois de tout ça. Et j'ai soigné ma mère du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai passé avec elle au travers de la maladie qui était très difficile. Fait que je suis devenue extrêmement sensible à tout ce qui touche la maladie, la souffrance des autres. Ça me touche à un point où je broyerais, je pense, à toutes les 5 minutes. Fait que je priais Dieu, puis j'ai demandé, j'ai dit, garde, aide-moi à y aller parce que je vais avoir de la misère à traverser l'orphelinat, je ne serais pas capable. Puis quand on le prie, ben ça fonctionne, mais j'ai été capable de rentrer à l'orphelinat et tout ça. M'occuper des petits-enfants, il y en avait, là, vous l'avez vu, ces photos, il y en avait 10 sur le tapis. On les prenait dans nos bras, on leur donnait des biscuits, c'était... Merci Dieu pour cette bénédiction-là de pouvoir aider les autres, dans le fond. Et j'étais assise d'ailleurs avec... Je pense que c'est Alex. J'étais assise dehors avec Alex. On avait chacun un enfant dans nos mains. Puis là, m'emmener, on voit une vingtaine de femmes qui étaient dehors. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'elles font là? Moi, dans ma tête, l'orphelinat, c'est juste pour les petits-enfants. Je n'avais pas l'idée qu'il y aurait des femmes. Puis, il y a une petite fille qui m'a dit, bon, elles ont les sida puis elles attendent de mourir. Quoi? Elles attendent de mourir. Là, j'avoue que, franchement, là, ça m'a ébranlée. Puis là, je me rappelais de ma mère quand que... Je me ressassais le temps où le médecin lui avait annoncé qu'il lui restait seulement 2 mois. Je ne sais pas si vous savez ou bien si vous l'avez déjà vécu, mais on vous dit combien de temps qu'il vous reste de votre vie, dans le fond. Ça ébranle quelqu'un, là, le temps arrête complètement. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont souvent des tragédies, des accidents, des décès brutaux qui font de sorte qu'à un moment donné, on arrête puis qu'on se dit « wow ». Sont où mes priorités? Puis là, il faut que je me retrouve. Puis là, c'est là qu'on fait des remises en question sur nos priorités. Il est quand même étonnant de voir la complexité de l'être humain. Nous attendons que des événements malheureux nous arrivent afin de comprendre comment nous pouvons mieux vivre. Vous savez, le temps qui passe très vite. J'ai compris que j'avais beaucoup de difficultés moi-même à mettre mes priorités à la bonne place. Oui, mes études, mes voyages, j'en ai des projets. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Parce que Dieu m'a envoyé là-bas, c'est pour des raisons précises habituellement, c'est pour nous montrer quelque chose. Puis je me demandais, où est la place de Dieu dans ma vie à moi? Dans Éphésiens 5, 17 à 18, 15, 17 à 18, il dit ceci, Paul dit ceci, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. » Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. J'ai eu 27 ans, il y a 3 semaines. Je me trouve vieille, désolée pour ceux qui sont en haut de moi, là, mais moi je me trouve vieille pas mal. Parce qu'il me semble que dans ma vie, écoute, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, je suis pas encore en train de faire la carrière pour laquelle j'étudie énormément. Puis c'est dans ce réflexe-là encore qu'on se dit, où est Dieu? Ce voyage m'a permis de comprendre une chose importante, soit l'importance de Dieu dans ma vie. La précarité du temps devrait nous alarmer, voire même nous épouvanter. Dans 1 Corinthiens 7, 29, il est écrit que le temps est court. Combien d'entre nous, sincèrement, souhaiteraient que dans une journée de 24 heures, ça s'allonge un peu, beaucoup plus? Parce qu'on n'a pas le temps de faire des choses. On a une liste. Moi, le matin, je me lève, là, j'ai une liste, là, puis il me semble que dans toute ma journée, je n'aurai jamais le temps de tout faire. Certaines choses sont importantes, certes, mais il y a d'autres choses qui sont plus ou moins. C'est même des choses futiles. Que faisons-nous du temps que notre Père Céleste nous donne? Car chaque minute, chaque heure, chaque jour sur cette terre devrait être une bénédiction. Car qui sait ce qui pourrait nous arriver demain? Un accident, un handicap, voire même la mort. Je me souviens que je travaillais après le décès de ma mère, puis il y a un monsieur qui a passé devant ma vitrine. Je venais juste de le voir, puis je disais, ah, il est beau, il a une prestance aujourd'hui, ça n'a pas d'allure, il est fin, il va reconduire sa femme. Puis là, une heure plus tard, j'entends en radio, il y a eu un accident à Saint-Léonard d'Aston, telle personne est décédée, mais je n'avais pas compris le nom de la personne, puis je continue mes choses. Puis là, mon boss revient, il dit, Eva, Paul-Henri est décédé. Pardon? C'est parce que je viens juste de voir passer. Il dit, non, ça se peut pas, tu trompes de personne. Il dit, non, il est décédé. Qu'est-ce que ce monsieur-là avait fait juste avant son accident qui l'a mené vers sa mort? Je ne sais pas. J'ose espérer qu'il avait fait vraiment quelque chose qui pourrait plaire à Dieu. Dans David, dans Psaume, David dit ceci, 39, 5 à 6. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Alors pourquoi ne pas racheter le temps et l'investir pour la gloire de Dieu? Je m'enlise souvent moi-même dans mes routines, puis je finis par déplacer mon culte du matin, mon moment d'intimité que j'ai avec Dieu pour d'autres choses, pratiquer mon cours de piano, pratiquer ma voix, aller au gym. C'est futile, ça. C'est pas nécessaire. Prends le temps. Je me dis tout à l'heure, prends ton temps. Tu as une heure, prends cette heure-là pour le diriger vers Dieu, car c'est lui, dans le fond, qui va te donner ses bénédictions. Éric Van Der disait dans un article, « Rachetez le temps ou me tenez prêt à l'arracher à la vanité de ce monde et de ma vie pour le lui rendre, à lui, le maître du temps. » Donc, c'est Dieu. On oublie souvent que c'est Dieu qui nous accorde. Il sait quand est-ce qu'on va naître, puis il sait quand est-ce qu'on va mourir. Donc, pourquoi pas profiter de l'opportunité que nous avons, du temps que nous avons, et lui accorder à lui seul? Il faut savoir en tirer profit, d'en faire notre principale affaire, d'en tirer le plus que possible. Par le fait même, demandons à Dieu qu'il nous enseigne à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse, selon Psaume 90, 12. Ainsi, discerner la volonté du Père, c'est de racheter le temps. Et pour ce faire, il nous faut développer une bonne habitude de prière, de bons moments d'intimité avec lui, afin qu'il nous montre c'est quoi sa volonté ou son plan pour nous. Donc, pour moi, quand j'étais en Haïti, c'était vraiment... parce que moi, j'étudie là-dedans dans l'aide humanitaire. Donc, ça m'a touchée beaucoup plus. Parce que là, j'ai vu que c'est là que Dieu vraiment voulait que je sois. Donc, il a dirigé ma vie tout le long, même si dans bien des occasions, j'ai pas pris le temps de lui demander. C'est là qu'il voulait que je sois. Et il m'a montré que dans ma vie, il fallait que je prenne plus de temps pour avoir plus de compassion, d'aller vers les gens. Donc, mon but présentement à moi, c'est d'aller soit dans les hôpitaux, soit d'aller dans les foyers, personnes âgées, prendre un moment avec eux autres, parce que ces gens-là sont souvent seuls. Il y a des personnes qui vont mourir et qui ne connaissent pas Dieu. Donc, moi, c'est ce qu'ils m'ont montré. Puis, à leur fille Lina, en voyant toutes ces personnes-là qui étaient toutes seules, qui étaient mises en adoption, qui étaient handicapées, puis qui allaient finalement finir leur jour-là et qui n'attendaient que ça, bien, Dieu m'a parlé beaucoup par rapport à la notion du temps. Merci.
Bon, bien, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui m'a touché le plus au voyage? Bien, premièrement, c'était mon premier. Alors, c'était toute une belle expérience. Et puis... en Haïti, il y avait un moment où que je me disais, je vois pas la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui arrive, je devrais la voir, ça devrait me sauter d'en face, mais là, je me demandais qu'est-ce qui se passait, fait que j'ai pris un temps avec Mathieu, puis j'ai prié, et puis deux jours plus tard, je me suis rendu compte, ben, t'es entouré de la main de Dieu, t'es entouré des chrétiens et puis même les personnes, les petits mounes qui jouent au soccer avec une balle de tennis, ça c'est vraiment beau à voir, puis sont joyeux à même quand ils font ça, fait que ça m'a touchée. Et puis à l'orphelinat, ça m'a beaucoup ébranlé parce que tout voir les petits mounes qui sont joyeux de nous voir et puis quand on chantait avec eux de voir qu'ils sont joyeux puis de voir qu'ils sortent, qu'ils tapent des mains puis tous les moments de les voir que sont heureux d'être là, puis Même à manier une petite fille, un petit monde, elle m'a invitée, elle m'a pris par la taille, elle m'a pris par les mains, puis elle a commencé à danser avec moi. C'était vraiment bénissant de voir ça. Et puis ça m'a beaucoup touchée. Je me suis rendu compte, Dieu, il ne les a pas abandonnés, ils les ont mis là, ils ne sont pas dans la rue, puis ils les ont mis à l'orphelinat, puis ils ont donné un toit. Et puis ça m'a beaucoup touchée. Et puis la dernière soirée en Haïti, ça c'est vraiment quelque chose parce que il fallait dire au revoir puis dire bye les timounes, on va peut-être se revoir, peut-être que non. Et puis il y avait les timounes qui chantaient. Nous, toute la gang de Trois-Rivières, on était en avant pour se préparer pour notre mime. Et puis là, on voyait les timounes, ça chantait, puis ça sautait, ça criait. Puis c'était vraiment beau à voir. Ça faisait la première fois que je voyais autant de timounes qui chantent pour louer Dieu puis qui l'aiment. Et puis ça m'a beaucoup émue. Puis c'était une belle bénédiction de voir ça. Puis je voyais mes amis et la gang de Trois-Rivières, je les voyais, puis on était tous heureux d'être là, puis de voir ça, puis on avait toutes des étoiles dans nos yeux, là. Fait que c'était beau. Merci.
Bonjour tout le monde. En ce carré, en Haïti, gros soleil. Alors moi, là-bas, en tout cas, il y a eu tellement de choses. Ce qui m'a touché le plus, c'est vraiment à l'orphelinat, le dimanche. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Tu sais, c'est tous des enfants handicapés, mentaux, physiques. Puis là, tu arrives là, puis bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis en tout cas, moi, j'ai pris une petite fille, Sandrine, qu'elle s'appelait. Elle avait 3-4 ans. Puis je la prends dans mes bras. Puis tout de suite, elle me serrait par le cou, elle me serrait vraiment fort. Assez qu'à un moment donné, j'étais là, es-tu heureuse? Elle te plaît-tu? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, je voulais comme y voir la face. Puis j'étais même pas capable. Puis c'est comme, en tout cas, je suis plus capable de la mettre à terre. J'ai peut-être gardé une heure et demie. Puis c'est comme, tout ce que Dieu voulait qu'on fasse, c'est de les aimer. Puis c'est, tu sais, c'est stupide, là. Tu sais, comme tantôt, Benoît, il disait, tout le monde a besoin d'amour, là. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait ici au Québec? Tu sais, des fois, on dit, « Hey, comment ça va? » »« Ah, oh, ça va bien. » C'est comme, on dirait, tu t'en fous, là. Puis en tout cas, ça m'a vraiment touché, tu sais, de prendre soin du monde, de leur parler, de les écouter et tout. En tout cas, c'était vraiment touchant. Puis juste là-bas, Simon, il jouait de la guitare, puis on chantait « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Là, j'étais là, je ne manquerai de rien. Oui, nous autres, au Québec, on a 8 repas par jour, si on veut. On a tout ce qu'on veut. On a 2 chars, on a une grosse maison. Oui, on manque de rien. Mais eux, là-bas, ça m'a comme... Là, ça me tracassait, puis là, je méditais là-dessus, puis c'est comme, à un moment donné, Dieu, il dit, oui, gars, vous autres, au Québec, on a tout en abondance. Mais eux, oui, garde, ils ont peut-être pas autant de choses que nous. Mais Dieu les aime pareil. Ils ont... Bon, oui, ils mangent. Fait que Dieu, dans sa grâce, les aime pareil. Puis il prend soin d'eux autres. Hein. Puis je vais vous parler un peu de la construction. Là-bas, la construction, c'est Adrien puis Michel qui s'occupaient là-bas. Adrien, lui, c'est un ingénieur mécanique. Fait que lui, il est plein, c'est son domaine. Mais le chantier de construction, il ne connaît pas grand-chose. Ben, il sait aussi qu'il s'en va. D'un plein. Puis il y avait aussi le grand boss qu'on appelle Michel. Lui, c'est un professeur en charpentier-menuisier. Il enseigne aux élèves en DAP. Puis là-bas, tous les outils, tous les matériaux, c'est arrivé par conteneur de Montréal. Puis il y a eu beaucoup de commandites pour les outils, puis en tout cas, toutes les affaires. Là-bas, on était peut-être une quarantaine de Québécois sur le chantier. Là-bas, on faisait du coffrage. On a tout coulé. On fait 2 coulées, c'est-à-dire de 30 pieds par 30 pieds. On coulait ça à Chaudière, on faisait une chaîne humaine. Puis les autres en bas, ils brassaient le béton à la main. Il n'y avait pas de mixeur, c'était nu-pied dans le béton, puis on brasse à la pelle. Puis c'est vraiment spécial, parce qu'ici, c'est comme les Redemix, puis la grosse pompe, c'est comme, ça prend 2 heures à couler ça, puis là-bas, c'est une bonne journée, tu sais. Ça prend vraiment du monde. Puis là-bas, ils engageaient une 30aine d'Haïtiens par jour, à peu près. Puis cette année, en tout cas, ça a vraiment bien été. Tout marchait très bien. C'était bien organisé, bien ordonné. Et les boss là-bas, ils faisaient des bonnes équipes. Puis on restait tous sur notre job, dans le fond, pendant les 2 semaines. Fait que ça l'a vraiment avancé. On a fait, juste nous autres, dans 2 semaines, on s'est avancé à peu près de 4 jours. On a fait notre job, puis c'est comme, ils passaient jamais se rendre là. On a fait une partie du toit. Fait que, en gros, c'est ça. Puis juste une petite parenthèse, tu sais, on est appelé à mission là-bas, c'est de 2 semaines. Quand tu arrives ici au Québec, genre, ça finit pas le 14 janvier. On arrive ici, puis tout le monde pose des questions, puis « Hey, là-bas, comment c'était? » Puis juste au travail, en tout cas, c'est magnifique, là. C'est quoi, tu t'en vas en Haïti, tu vas travailler? Hey, t'es fou! Puis, ah oui, je vais travailler, puis c'est la Bible parle, l'organisme, puis ah ouais, fait que ça l'amène une bonne, bonne, en tout cas, pour témoigner, là. Fait que... fait que c'est ça. On va voir des photos de la construction. Ah, puis, juste... t'es en train d'oublier, j'ai ma feuille, puis j'oublie tout. Ah, là-bas, on construit, c'est il va y avoir un hôpital. C'est une grosse clinique. Il va y avoir pour les dentistes aussi. Puis, on est en train de faire une maison pour les monosiers, là. Les autres, les docteurs là-bas. Là, ils veulent faire d'autres maisons pour les autres missionnaires, dans le fond, qui vont travailler à plein temps. Puis le gros dispensaire, c'est ça. Fait que c'est vraiment un beau projet. Fait que ceux qui sont manuels l'an prochain, on va avoir besoin de vous.
Allô? Moi, c'est la deuxième année que je vais en Haïti. Puis, cette année... Qu'est-ce qui m'a le plus touchée, c'était vraiment que le matin, quand on se levait de bonne heure. Des fois, on se couchait vraiment tard le soir. Puis quand on se levait le matin, on n'était pas comme « Ah, je vais dormir encore 5 minutes. » On était vraiment content de se lever. Puis parce qu'on savait que le matin, on se levait puis on allait travailler pour Dieu. Puis c'était vraiment pour sa gloire. Puis à chaque fois qu'on allait au chantier, des fois, c'était tough, il faisait chaud. On suait, c'était pas... Mais juste le fait de savoir que tout ce qu'on faisait, la construction, la clinique, puis tout, c'était vraiment ça... Dieu, il aimait ça, puis ça allait aider les Haïtiens. C'était tellement une autre perspective d'ici que des fois quand on travaille. Puis ça... Aussi, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté à réfléchir, c'était que... Tu sais, juste le fait que moi, je vais à l'école, puis... Tu sais, le matin, quand je me lève, puis des fois, « Ah, ça me tente pas d'aller à l'école. » Mais dans le fond, faut arrêter de dire ça parce qu'on est tellement chanceux de pouvoir aller à l'école. Puis les Haïtiens, eux, là, ils travaillent juste pour pouvoir aller à l'école. Puis nous, on chiale parce qu'on doit aller à l'école. Tu sais, ça... Ou tu sais, ceux qui travaillent, puis que, tu sais, se lèvent le matin, ah, pas aller travailler, ça ne tente pas. Mais dans le fond, on devrait tellement remercier Dieu à chaque matin parce que il nous a donné un travail, puis on peut, tu sais, il y en a tellement aussi des Haïtiens là qui aimeraient ça avoir un travail pour pouvoir nourrir leur famille, puis pouvoir aider les autres. Puis faut tellement changer aussi ça, la perspective de la place de remercier Dieu pour qu'est-ce qu'il nous donne pour pouvoir aller à l'école, puis avoir un travail, puis vraiment voir ça comme les Haïtiens y voient. C'est tout.
Bonjour. Moi, ça a été... ce qui m'a vraiment touché, c'est pas mal le fait... Il y avait trois équipes, dans le fond, dans la mission. Il y avait l'équipe pour la clinique qu'on a vue tantôt, la construction. Il y avait une autre équipe aussi qui était pour les rénovations... Des choses brisées comme des chaises, des bancs à faire et des choses comme ça. Je faisais partie de cette équipe-là. Et Juste le fait de construire un banc pour les Haïtiens, ça a été déjà tout. On n'a pas de matériel pour le faire, donc on ramasse du bois, des choses comme ça, et on prend des clous déjà usés et on les plante dedans. Et après, on leur présente le banc et ils sont tout contents qu'ils ont enfin un banc pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine aussi. Donc juste le simple fait d'un banc, ils sont vraiment contents. Et j'ai eu aussi une leçon de la part de Dieu, c'est quand ils ont fait la coulée de béton, ils ont demandé d'avoir le plus de personnes possible pour pouvoir le faire. Et j'ai demandé à mon boss si je pouvais aller là-bas pour faire du béton. Là, il me dit qu'il va me revenir dessus. Et quand il me revient dessus, il me dit « Non, finalement, tu vas rester avec moi, on a encore des choses à faire. » J'étais déçu, toute la dynamique qu'il y avait là-dedans pour tout le monde en parler, on va faire du béton, yes, let's go. Et moi, je ne faisais pas partie de ce monde-là, j'étais plus ensemble avec mon boss et deux, trois personnes, et on réparait des bancs, on faisait on a fait une grosse caisse pour les poubelles, on a mis 4 poubelles dans la grosse caisse. Juste des petites choses comme ça, simples à faire, mais qui est utile, très utile là-bas, qui simplifie la vie des Haïtiens. Et là, à travers ça, le Seigneur il m'a dit, c'est pas les grosses choses où il y a beaucoup de personnes qu'il faut que tu ailles, c'est plus dans les petites choses. Tu as plusieurs à faire, mais des petites choses. Et au début, je ne l'ai pas catché. Et à la fin, j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as béni là-dedans. C'est ça.
OK, ben moi, c'était pas vraiment prévu, là, fait que je vais faire ça vite, mais Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous partager quelque chose, parce que moi, dans le fond, en m'en allant en Haïti, ma petite sœur était allée l'année passée, puis elle était revenue, puis je me souviens, elle revenait de l'aéroport, elle était dans le cadre de porte, puis on était restés là genre 3 heures à parler de son voyage, puis elle était tout emballée, puis tout ce que Dieu a montré, fou, genre émotion, puis moi, je suis bonne émotive, puis j'aime ça, vivre des affaires, fait que là, j'étais comme, moi aussi, je vais y aller, puis... Je veux vraiment que Dieu me fasse vivre des grandes choses, que ça change ma vie, que, tu sais, là, je sois full comme « wow », tout ça. Encore, Philippe, moi aussi, je voulais des « wow ». Puis là, en tout cas, finalement, j'arrive là, puis on m'a placé dans... Ben, j'ai choisi d'aller dans la construction parce que, tu sais, dans le clinique, je sais pas vraiment, je servais pas à grand-chose. Fait que là, dans le fond, je suis dans la construction, puis là, wow, là, des grosses roches, les barouettes. Moi, en tout cas, je suis un petit peu frêle, là, quand même. Fait que là, c'était quand même intense, puis je me donnais, genre, à fond. Puis j'étais, parce que là, en plus, Alex vient me voir le lendemain, il dit, hey, le Big Boss, trouve que tu travailles fort, puis là, moi, wouh, la tête m'enfle, puis là, je suis vraiment comme, aïe, je vais me donner à fond, puis là, tu sais, je me donnais à tous les jours, là. Je me couchais brûlée, je me sentais plus, mais hey, let's go, le Big Boss me trouve que je travaille fort. Puis, sérieusement, mais tu sais, c'est drôle, mais en même temps, après une semaine de ça, là, de faire ça pour tout, dans le fond, je le faisais pour moi, de ce que j'avais l'air, puis je me disais, ah, je vais avoir des muscles en plus, tout le kit. Mais sérieusement, c'est vraiment égoïste, tu sais. Puis, je vivais vraiment, tu sais, oui, je vivais des choses, des petits mots, nanana, mais tu sais, je vivais rien de super gros, puis je m'en rendais pas vraiment compte de tout ça, là, en fait. Puis, il y a une soirée, j'étais vraiment brûlée, j'étais sur le toit, puis Mathieu, encore une fois, c'est pour ça que j'ai décidé de venir, parce que je trouve que Mathieu, en tout cas, il a vraiment été utile dans ce voyage-là, Dieu l'a vraiment utilisé, puis encore une fois, il vient me voir, nowhere, là, puis il me demande, je peux-tu te parler, OK? Il me dit, comment ça va, Mello? Là, c'est correct, là, tu sais, je suis fatiguée, tout ça, puis je sais pas trop, il commence à me poser des questions, puis... En me posant ces questions-là, ça fait longtemps que Dieu il me parle à propos de l'aspect d'avoir une seule audience qui est Dieu, puis dans le fond, qu'on devrait juste plaire à lui, puis essayer de plaire à tout le monde, puis faire les choses pour nous glorifier, puis tout ça. Puis, tu sais, pour moi, c'était un combat que j'avais depuis longtemps, puis cette semaine-là, je me rendais compte que je m'épuisais, puis que, tu sais, dans le fond, j'en retirais rien, puis j'avais pas l'impression que je faisais vraiment rien pour Dieu, puis que je servais à quelque chose. Puis, tu sais, Mathieu, il a pas fait grand-chose, il m'a juste écouté, là, je sais pas combien de temps qu'on a passé sur le toit, mais en parlant, je me rendais compte de plein de choses, puis de comment que, tu sais, faut arrêter de dire, oh, ce que les autres pensent de moi, ou si je fais ça, que ça va faire, tu sais, vraiment, il y a...
Il y a juste Dieu qu'on doit plaire. T'sais, si on se concentre là-dessus, ben le reste va s'en suivre. T'sais, les gens autour de nous vont le voir. Puis pour moi, ça a vraiment fait toute la différence. Puis j'essaie de le vivre au maximum. Puis je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour cette conversation-là parce que ça a vraiment changé le reste de mon voyage puis le reste de la semaine. Puis t'sais, non, j'ai pas été... mon Dieu m'a pas montré des choses super émotionnelles, mais t'sais, côté... plus objectif, mettons, j'ai plus découvert des choses, puis de mettre des choses plus en pratique dans ma vie, puis ce voyage-là, comme on disait tantôt, vu qu'il y a moins de distractions, ben ça m'a vraiment permis de me regarder moi-même, puis d'appliquer des choses dans ma vie que j'osais comme pas faire avant, puis en tout cas, je remercie vraiment à Dieu pour ce voyage-là, puis à toute l'équipe, parce que ça a vraiment été une équipe formidable. Merci.
C'était mon deuxième voyage et ce qui m'avait vraiment touché, c'est j'avais vu le monde là-bas et quand j'avais vu ça, ils sont dans la pauvreté au fond du trou, marchant sur des tonnes des montagnes tortueuses. Et ce que j'avais vu, c'est ils sont dans la joie. Et non seulement ils ont un visage, un sourire sur leur visage, mais ils ont aussi la joie. La joie que Dieu leur a donnée, que Dieu nous donne à tout chrétien. Et quand je suis revenu de ce voyage, j'avais vu ici que nous sommes en haut, nous pouvons avoir toutes les choses à notre portée de la main, mais sauf qu'on ne voyait aucun sourire sur le visage, aucune joie. Et à force, on finissait par une dépression. Et n'ayant plus d'espoir, certains finissaient par se suicider. Ce que Paul nous dit en Philippiens chapitre 4, de versets 4 à 6, il dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant ainsi votre reconnaissance. » Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons tout, nous devrons être aussi joyeux que les Haïtiens, eux, ils n'ont rien. Et ici, pourquoi ne pas faire autant qu'eux? Et je voudrais que, de tout mon cœur, qu'un jour je puisse au moins voir un visage, un sourire et une joie en Dieu. Parce que Dieu nous a pas fait pour qu'on soit toujours en train de lui demander, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Alors Dieu nous avait donné, nous a créés pour qu'on soit dans la joie pour lui. Et nous devrons lui remercier, dire merci Seigneur pour le privilège que je sois ici, dans un pays d'abondance. Et prier aussi pour ceux qui n'ont rien, pour les Haïtiens. Comme on avait comme projet de la cantine Tiverny, donner simplement un 25 cents ou moins de faire le geste de donner de quoi pour qu'ils puissent au moins avoir un repas de plus par jour. Car là-bas, ils ont quoi? Un seul repas par jour, même par tous les deux jours. Et je voudrais vraiment que vous donnez vraiment voir une joie en vous. Et c'était ça qui m'a vraiment touché là-bas.